paraît que l'on vit tous dans un sous-marin jaune. Bonsoir. Le nôtre navigue dans les eaux plus ou moins troubles de l'actualité, du lundi au vendredi, excepté le mercredi, jour des enfants, pendant lequel nous devons nous reposer. Nous sommes de chaque thématique, qu'elle soit politique, économique, associative, étudiante ou navale, qu'elle soit nationale, locale ou sur un point égaré des eaux internationales. Sonar activé, périscope remonté, rien ne nous échappe. Ici Tiffaine, votre commandant de bord pendant cette heure en eau profonde, et avec moi ce soir au poste de manœuvre, Mathilde, Simon, Rémi, Aminata et Julien Paul. Ce soir, au sommaire du sous-marin, nous entendrons dans un premier temps une interview d'Arnaud Gonzalez, réalisée hier par Simon de l'émission Juicebox du mercredi, et ce, en vue de la moderne factory de demain, au Chabada. En milieu d'émission, on te retrouvera, Rémi, salut.
Bonjour.
Tu es notre chroniqueur éco du jeudi, de quoi tu vas nous causer ?
Du PIB et des problèmes qu'il pose.
Bon, bon. En deuxième partie d'émission, entretien from Montréal avec Zécole Mirico, alias Frédéric Pellerin, le plus français des hommes orchestres québécois. Aminata, en deuxième partie d'émission, livrera son périscope. Comme chaque jour, en fin d'émission, vous retrouverez l'agenda de cette soirée présenté ce soir par Julien Paul. Bonsoir Julien Paul.
Salut.
Et la bulle sonore de fin d'émission. Et notez qu'ensuite, l'équipe de Radio Campus Angers sera au bar du quai en direct et en public de 20h à 1h du matin pour la soirée Beatmakers partie 2. Mais d'abord, salut Mathilde.
Salut.
Après les infos de 19h, on te retrouve. Chaque jeudi, tu nous livres un flash au niveau de la mer avec des infos dont nous aurions pu nous passer. On débute cette semaine par la cérémonie dont tout le monde se fout, mais elle est là quand même.
Je parle bien sûr des Gérards de la télévision. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que sont les Gérards de la télévision, ce sont des prix remis au pire de la télé de l'année, basés sur le modèle des Razzie Awards aux États-Unis. Alors forcément, c'est peu flatteur, les personnalités sont nominées malgré elles, et leurs émissions avec. Bon, certaines catégories ne sont pas très très sympas, mais on est soulagé lorsqu'on voit la catégorie Gérard du projet d'émission jeté aux chiottes par toutes les chaînes, mais apparemment, les canalisations débouchent chez Energy 12. Alors dans cette catégorie sont nommés Tellement Vrai, Hollywood Girls, L'Île des Vérités et Alona Bila. Également nommés pour les Gérards, Sophia Aram, Laurence Ferrari et Cyril Hanouna. Cette cérémonie qui pourrait vous sembler complètement débile ne l'est pourtant pas tant que ça, car le jury est tout de même composé de nombreux journalistes des journaux Le Monde, Le Nouvel Obs ou encore RMC et Arte. Alors si vous ne savez pas quoi faire et que vous voulez rire de la télé devant votre télé, je vous donne rendez-vous le 13 janvier sur Paris Première.
Apparemment, il n'y a pas que les motards et les automobilistes qui se font arrêter pour conduite en état d'ivresse.
Ce n'est pourtant pas un poids lourd non plus, ni un cycliste, mais un jeune homme en fauteuil roulant. C'est la mésaventure qui est arrivée à un jeune étudiant norvégien de 20 ans, à la mobilité très réduite ces derniers jours. Souffrant d'une dystrophie musculaire, l'étudiant regagnait son domicile après une soirée quand une patrouille l'a intercepté, roulant sur son quadriporteur sur la voie publique à Molde, une ville de l'ouest de la Norvège. Le soupçonnant d'être ivre, ce qu'il n'a pas contesté, mais aussi d'avoir volé l'engin, là tout de suite c'est moins drôle, la police l'a intercepté, conduit à l'hôpital pour un contrôle éthylique, puis ramené chez lui après avoir confisqué le quadrimoteur, dont la vitesse ne dépasse pas 10 km/h. Le jeune homme n'a pu récupérer son fauteuil roulant motorisé que 4 jours plus tard, le temps d'être blanchi des accusations de vol, et forcément il n'a pas pu se déplacer pendant tout ce temps. Sympa les policiers norvégiens. Montana, États-Unis. Walter White, 53 ans, est condamné à 12 ans de prison pour trafic de méthamphétamine. Breaking Bad ? Même pas. On est bien dans la réalité. L'homme a été condamné lundi à 12 ans et demi de prison après la découverte en mars dernier de près de 15 kilos de méthamphétamine et d'armes chez lui. Le pire, c'est que les ressemblances ne s'arrêtent pas là. Ce dernier se serait fait tirer dessus par son fils pour une histoire de dette jamais réglée. Pardon. Alors les créateurs de la série nous ont-ils caché que toute cette série était une histoire vraie ? On attend la réponse.
Vous en avez marre des mariages traditionnels et désespérément en panne d'idées pour le vôtre ?
En voilà un qui pourrait sans doute vous inspirer, mais dans le genre complètement barré. Anna, une jeune américaine, elle a toujours rêvé de licornes et de paillettes. Alors les invités ne sont pas étonnés, le jour de son mariage, de voir une grande licorne à la forme d'un cheval de manège au milieu de la prairie où s'est déroulé l'événement. Mais cette licorne est un peu particulière. Cette dernière fait pipi de la citronnade, crache du feu rose et des paillettes. Anna l'a voulu soit à son mariage, Anna l'a eu. Elle s'appelle Katy Perry. Et enfin, notons qu'Anna a rencontré son mari au festival Burning Man, et hop, la boucle What the Fuck est bouclée.
Comme souvent avec toi Mathilde, merci, on te retrouvera après les vacances. Tout de suite, on écoute Hugo Kant qui sera au bar du quai ce soir, je le répète, pour la soirée Beatmakers partie 2 avec Tilassine. Voici The Talk No Kill.
Wait, wait, wait.
With so little time remaining to complete my story, it is difficult to choose where to begin it. Perhaps I should begin at the beginning.
Demain soir au Shabada de 22h à 4h du matin, ce sera la Modern Factory, 6h d'électro avec Ben Clock et Arnaud Gonzalez, instigateur des modernes. Hier, il a répondu à l'invitation de Simon et s'est laissé interviewer dans les studios de Radio Campus Angers.
L'hiver a débuté rugueux, mais un vent de douceur souffle sur la région angevine depuis quelques jours. Il doit se tramer quelque chose. Je regarde le calendrier. En effet, vendredi soir a lieu la Moderne au Shabada en compagnie de Ben Clock et Arnaud Gonzalez. Il nous fait l'honneur d'être aujourd'hui parmi nous sur Radio Campus. Arnaud Gonzalez, bonjour.
Bonjour.
De retour au pays, puisqu'il est angevin, fait de la musique depuis pas mal d'années. Alors Arnaud, on vous a vu jouer au Rex Club à Paris, à la Bacchanale de Montréal. Comment en es-tu arrivé là?
Oh là,
parcours un petit peu...
Parcours, j'ai commencé dans un petit bar à Angers.
Ouais.
Après, j'ai toujours été plus ou moins baigné dans la musique parce que j'avais un grand frère qui était déjà DJ, mais qui passait un peu de tout et qui était quand même passionné de house music. J'ai toujours des parents, mais qui ont eu à une certaine époque, quand j'étais jeune, un club. Donc j'ai toujours un peu baigné là-dedans sans jamais vouloir en faire mon métier. Et on m'a proposé de devenir DJ résident d'un bar, c'était en 98 sur Angers. Et suite à ça, en fait, j'ai appris à mixer en travaillant. J'ai eu un peu une chance un peu inouïe parce qu'on m'a surtout engagé pour la sélection que je faisais plus que pour le mix ou tout ça. Et j'ai continué mon petit bonhomme de chemin à faire mes études en parallèle, à faire de la musique. Et puis petit à petit, la musique a pris de plus en plus de place. J'ai quand même fini mes études pour faire plaisir à papa et maman, on va dire. Et par la suite, je me suis rendu compte que voilà, on me proposait de venir jouer dans différentes soirées, moyennant un petit cachet pour commencer. Et puis au fur et à mesure, on me proposait de plus en plus de dates, de mieux en mieux payées, ainsi de suite. Et par la suite, j'ai voulu inviter des gens que je croisais sur la route. Ouais. Ça a donné les modernes. Ça a grandi. Et voilà, en fait, je me rends pas trop compte du chemin parcouru ou quoi que ce soit. Ça se fait au fur et à mesure, naturellement. Et voilà, jusqu'à avoir des dates proposées à l'étranger ou des choses comme ça.
Et aujourd'hui, tu fais que ça, du coup?
Je fais que ça, oui, depuis 10 ans, ouais, maintenant. D'accord. Je fais de la musique, enfin voilà, de la musique, de l'organisation d'événements et voilà, de la production, enfin... Soit en tant que DJ, soit en tant que producteur, remixeur, voilà.
Ok, et pas seulement en France, du coup.
Pas seulement en France, ouais. Ça m'a amené un peu partout dans le monde. C'est une sacrée chance que j'ai là. Ça m'a amené en Russie, en Turquie, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada.
Les ambiances, ouais, tu préfères quel pays ?
Chaque pays est différent, chaque pays a son ambiance, mais en général, on retrouve à peu près le même type d'ambiance dans la mesure où maintenant, avec Internet, tout le monde écoute plus ou moins la même musique. Enfin, on va dire, il y a un public pour chaque style musical, et ça permet d'avoir des références, même à l'autre bout du monde, à l'est de la Russie. On va parler à peu près des mêmes choses sur les artistes qu'on affectionne, donc c'est assez incroyable ça.
Alors le label Timid Records sur lequel donc tu es produit compte des grands noms de la musique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le label?
Alors le label Timid Records, c'est un label qui a été créé par Jean-Louis Le Guillou, JL pour ceux qui le croisent en soirée, ouais, qui vont l'écouter mixer. Donc ça a été créé maintenant il y a plus de 5 ans. La première sortie, c'était mon premier disque sur le label, en fait. Donc on se connaît depuis vraiment très longtemps avec Jean-Louis, parce qu'il a commencé à mixer en même temps que moi, sur Angers. À l'époque, lui, il était dans le collectif Substrat, une association qui faisait beaucoup de choses, qui organisait beaucoup de soirées. Et du coup, on partageait la même passion, les mêmes envies, les mêmes attentes. Et lui a choisi, voilà, après un certain temps, a choisi vraiment de s'investir dans la création d'un label. Moi, j'ai continué un peu plus sur l'organisation des soirées et aussi essayer de me promouvoir en tant qu'artiste. Et du coup, on se complète bien et on a traversé les années un peu main dans la main comme ça. Et maintenant, son label, il a une bonne reconnaissance au niveau français avec beaucoup d'artistes tels que Joris Delacroix, Ego, Electric Rescue aussi, qui fait souvent des remixes sur le label.
Laurent Garnier aussi.
Alors Laurent Garnier n'a pas sorti de trucs sur Timid Records, mais soutient de temps en temps le label. Enfin, on va dire que maintenant les grands noms de la musique électronique ont pris conscience que ce label, voilà, peut apporter de bonnes choses et de belles sorties de temps en temps.
D'accord.
Voilà.
Je m'intéresse un petit peu à un club où t'aimerais en particulier jouer. Je sais que t'en as fait pas mal.
Si on peut parler de la soirée de vendredi.
Ouais.
Le club dans lequel Ben Clock joue très régulièrement, le Berghain à Berlin, ouais, c'est un club dans lequel j'ai jamais joué. Voilà, ça serait le pied total de jouer là-dedans, quoi. Parce que c'est vraiment un club à part, quoi.
Ouais. On te propose souvent plutôt dans les clubs ou toi tu fais pas mal de démarches pour...
Non, en fait moi j'essaie de pas trop courir après les dates, parce qu'en fait plus on demande et moins on te fait jouer en général. Et en général, quand on vient te chercher, c'est vraiment qu'on sait ce que tu fais et qu'on veut vraiment que ça soit toi qui soit là à ce moment-là. Tandis que si tu démarches un peu trop, c'est un petit peu des fois en faisant le forcing que tu te retrouves pas au bon endroit. Enfin ouais. Voilà. Et après, non, maintenant j'ai quelqu'un qui s'occupe de mes dates. Mais on va dire que jusqu'à présent, ça a surtout été mon réseau. Qui a été déterminant, c'est-à-dire que tu fais une date, on t'appelle pour jouer à Munich, tu fais une date là-bas, et il y a un mec qui te repère, et ainsi de suite, et ça fait un effet boule de neige comme ça. Ça a toujours été comme ça depuis 10 ans, et c'est ce qui m'a amené à bouger vraiment un peu partout, quoi.
Ouais.
Mais ouais, enfin voilà, pour revenir à ta question, c'était quoi le mégare, excuse-moi.
Où est-ce que t'aimerais jouer, sinon un DJ, un artiste qui t'inspire ou avec qui vraiment tu t'aimerais bien jouer sur scène?
Bah, pour le moment, je suis assez chanceux. Les gens qui m'inspirent ou que j'apprécie, j'ai souvent eu l'occasion en fait de les côtoyer, de jouer avec eux, comme l'année dernière avec Agoria ou avant avec Nathan Fake et j'en passe beaucoup. Enfin, même forcément pas forcément des gens très connus, mais les gens qui m'inspirent sont souvent ceux qui sont qui restent passionnés, qui considèrent pas la musique comme un business et qui font ce qui leur plaît tout en faisant plaisir aux gens, quoi. Donc c'est assez vaste, assez large. Mais après, comme figure emblématique en France, je pense qu'il y aurait Laurent Garnier et Agoria, quoi. Mais là, jouer avec Ben Clock par exemple, c'est exceptionnel. Enfin, je me rends compte de la chance que j'ai. Au mois de septembre, je jouais avec Carl Craig. Au mois de octobre ou novembre, j'étais avec Margaret Digas, qui est aussi une grande représentante du Berghain à Berlin. Là, je me retrouve avec Ben Clock. Voilà, je vais pas me plaindre, je suis déjà comblé, quoi.
Après, ouais, bah, c'est que du bonus, aussi, c'est que de ramener des artistes c'est comme que ça plus. Sur Angers.
De rien, ça me fait autant plaisir ça fait autant plaisir à moi que au public. Ouais, donc c'est le but du jeu, quoi.
Ouais. Des nouveaux projets pour 2014 en cours?
Je suis sur un deuxième album là en ce moment. Après ça, voilà, j'essaie de prendre le temps de faire les choses bien. Je pensais le finir genre pour la fin de l'année, mais j'étais un peu utopiste parce que j'ai une quantité de travail en fait à côté avec notamment la moderne, des choses comme ça, les dates, d'autres projets aussi avec d'autres artistes à côté. Et donc du coup, voilà, ça prend un peu plus de temps que prévu, mais c'est mon objectif 2014, c'est cet album et je veux faire ça bien. Voilà.
D'accord, ok.
Prendre le temps.
Alors, vendredi, donc, c'est la moderne au Shabada. C'est complet, des grosses attentes, donc on en parlait tout à l'heure.
Ouais.
Tu peux nous dire un petit mot, un petit peu sur comment ça se passe, les attentes du public, etc. Ce qui se passe un petit peu sur Facebook.
Oui, il y avait 900 places. Il n'y en a plus. Ça fait une semaine que c'est complet. Donc forcément, en ce moment, c'est un peu la foire d'empoigne pour essayer de racheter des places ou quoi que ce soit. D'un côté, ça me fait plaisir parce que la soirée est complète. D'un autre côté, voilà, c'est des gens qui ont un peu trop attendu et qui vont être déçus. Ça fait un peu mal au cœur. On aimerait bien pouvoir pousser les murs et en mettre plus dans la salle. Mais bon, on a des jauges de sécurité à respecter. C'est comme ça. Après voilà, c'est vrai qu'il y a une espèce de petit marché parallèle qui est en train de se développer. C'est un peu dommage. Enfin, voilà, des gens qui se disent tiens, il y a de la demande, je vais pouvoir essayer de revendre ma place. Donc voilà, tant pis pour ceux qui ont acheté leur place et qui vont la revendre. C'est comme ça. Je vais pas créer le débat ou la polémique.
Y en a
ça s'active beaucoup sur les réseaux sociaux. Les gens s'énervent, etc., etc. C'était toujours la même rengaine et on entend surtout gueuler ceux qui sont, enfin, un peu moins contents et un peu moins intelligents que la moyenne. Mmh. Voilà.
Ok. Ouais, merci beaucoup. Alors, donc, on était avec Arnaud Gonzalez donc sur Radio Campus. On se retrouve vendredi en sa compagnie avec celle de Ben Clock. Donc, merci beaucoup Arnaud
merci de nous avoir invité.
C'est très gentil. Merci de nous avoir donné tant de temps. Et puis à vendredi alors.
À vendredi.
Tout de suite, on va s'écouter un morceau d'Arnaud Gonzalez. C'est complet demain soir. Donc, si vous n'avez pas votre billet, c'est notre lot de consolation. Si vous faites partie des chanceux, c'est une petite mise en bouche. Arnaud Gonzalez avec George Gelter's Wasting My Time. I waste my time. We'll be right back.
time to waste my time.
I waste my time.
19h30, on retrouve Rémi, notre moussaillon, qui s'occupe d'économie le jeudi soir. Et voilà une ribambelle de pourcentage.
Oui, Tiffen. 0,9% pour la Banque de France, 1,0% pour l'Organisation de coopération et de développement économique, 1,3% pour l'Office français des conjonctures économiques. Ah, qu'il est bon d'entendre tous ces organismes internationaux, nationaux, ces institutions monétaires chanter les prévisions de croissance française pour 2014. Bonne année à tous, la croissance revient, et avec elle l'espérance d'un monde meilleur. Oubliez la dette, le chômage, la déprime, le mauvais temps, la croissance est là. 0,4% pour le quatrième trimestre 2013, 0,9%, calmez-vous. Ça veut dire quoi d'abord tous ces chiffres? La croissance de quoi? Eh bien du PIB, mes chers amis. Ah oui, le PIB, le produit intérieur brut, un truc qu'on a vaguement appris en seconde. Ah oui, mais c'est quoi le produit intérieur brut? C'est la somme des valeurs ajoutées d'un pays.
Mais c'est quoi une valeur ajoutée?
Eh bien, c'est le chiffre d'affaires d'une entreprise moins les consommations intermédiaires. Vous êtes une entreprise qui fabrique des chaises. Eh bien, pour faire vos chaises, vous allez acheter du bois, vous allez le transformer. Vous allez le transformer pour obtenir l'objet voulu, puis vous allez vendre votre production. Eh bien, c'est ça.
Excusez-nous, on a un fou rire, pardon. Mais c'est quoi une valeur ajoutée, Rémi?
Eh bien, c'est le chiffre d'affaires d'une entreprise moins les consommations intermédiaires. Vous êtes une entreprise qui fabriquait des chaises. Eh bien, pour faire vos chaises, vous allez acheter du bois, vous allez le transformer pour obtenir l'objet voulu, puis vous allez vendre votre production. Eh bien, c'est ça, une valeur ajoutée. C'est le prix de votre chaise moins le prix du bois que vous avez acheté. C'est la valeur que vous avez ajoutée au produit. Mais le PIB ne peut pas s'arrêter là. Ce serait trop simple. Il comptabilise aussi la production non marchande qui n'est pas destinée à être vendue sur un marché. En gros, les services publics. Mais eux, ils ne sont pas attachés à des notions comme le chiffre d'affaires ou la valeur ajoutée. Pour les intégrer dans le PIB, on s'est dit que leur coût représente la valeur qu'ils produisent. Les salaires des fonctionnaires font donc partie du PIB. On se dit qu'ils produisent la même valeur que ce qu'ils coûtent. En ne prenant en compte que de la valeur et non de la richesse, le PIB contient donc beaucoup d'éléments qui n'améliorent pas la qualité de vie. Un exemple concret. Lorsqu'une rivière est polluée, vous faites augmenter le PIB 3 fois. D'abord, car il a fallu des activités qui polluent la rivière. Ensuite, car des maladies se sont développées autour de la rivière et qu'il a fallu les traiter. Et enfin, car la rivière a dû être dépolluée par une entreprise. Autre exemple. Beaucoup de journalistes ont expliqué la petite croissance observée au premier trimestre 2013 par l'hiver rigoureux du début 2013 qui a forcé à chauffer davantage les bâtiments. A l'inverse, le PIB ne prend pas en compte l'autoproduction. Vous savourez une tarte faite vous-même avec les fruits du jardin, ça ne fait pas augmenter le PIB.
Et pourquoi est-ce qu'on utilise un indicateur qui mesure aussi mal le niveau de vie?
Eh bien parce que le PIB doit juste donner une idée du niveau de vie. Il n'est utile que pour en observer l'évolution. Si le PIB a baissé, ça veut dire qu'en gros, il y a eu moins d'activité économique et que ça va plus mal dans le pays. D'ailleurs, les 3 années où le PIB a reculé ne correspondent pas à des super années. 1974, 1993, 2009. 3 bonnes crises. Le PIB sert aussi à comparer les pays entre eux. L'Allemagne a un PIB plus élevé que la France, qui a un PIB plus élevé que l'Italie. Si on veut avoir une idée du développement des pays, il faut consulter l'IDH, l'indicateur de développement humain, qui prend lui en compte pour 1/3 la scolarisation et l'alphabétisation, pour 1/3 l'espérance de vie, et bien sûr pour un dernier tiers, le PIB pour donner une idée du niveau de vie. Et pour les inégalités, allez voir le coefficient de Gini, compris entre 0 et 1. Si vous avez 0, chaque personne du pays gagne exactement la même chose. Et si vous avez 1, eh bien c'est le pays où il y a une personne qui capte tous les revenus. Par exemple, il est de 0,30 à Cuba, 0,33 en France et 0,41 au Qatar. C'est bien foutu les indicateurs, non?
Si, si, merci Rémi. On te retrouvera après Noël pour d'autres riches explications. Il est québécois, a passé une majeure partie de sa vie, à Lyon, pardon, il y est installé seulement depuis moins d'un an. Il a sorti un album depuis début novembre et Radio Campus Angers a choisi de le mettre dans sa programmation. Nous avons pu interviewer Frédéric Pellerin, alias École Miricaud, depuis le Canada, d'où il nous a appelé cet après-midi. Vous faites appeler École Miricaud, vous appelez en fait Frédéric Pellerin, mais ça sonne moins rock'n'roll. Ça fait combien de temps que vous avez choisi ce nom-là?
Ce nom-là, ça fait peut-être, je dirais, 4 ans. En fait, je me cherchais un pseudonyme justement parce qu'il y a un autre artiste au Québec qui s'appelle Frédéric Pellerin, puis qui est connu, donc lui il est très dans le domaine du conte. Donc je me cherchais un pseudonyme en fait, donc Rico, c'est le surnom que ma mère me donnait.
D'accord. Alors pour les auditeurs qui vous découvrent, vous avez sorti votre deuxième album This Kind of Life le 5 novembre dernier.
Oui, absolument.
Votre deuxième album solo, parce que vous faisiez avant partie de la formation Madcaps.
Oui, c'est ça. Donc Madcaps, c'est le groupe auquel dans lequel je fais partie depuis plusieurs années. J'en ai fait la tournée pendant une dizaine d'années, donc au Canada. C'est un groupe un petit peu plus rock, avec une touche de funk. Donc avec mon projet d'École Murico, j'avais envie de revenir un peu au blues, à la musique que je faisais quand j'étais adolescent, que j'écoutais beaucoup. Donc, ça faisait longtemps que j'avais envie de retourner à une musique un peu plus roots, je dirais.
Plus roots. Alors, vous jouez de la guitare, de la batterie, vous chantez. Vous êtes ce qu'on appelle en France un homme orchestre. Aux États-Unis, c'est un one-man band, c'est ça?
Oui.
Pourquoi vous avez fait ce choix de tout faire tout seul, en fait, même si vous êtes accompagné par Charlie Glad et Christian Vézina?
Oui, ben ça dépend des spectacles. Hein. La plupart des spectacles, je les fais vraiment seul. Puis sur certains spectacles, je les fais accompagner justement d'amis, dont Christian et Charlie. Mais je dirais qu'au départ, c'était pour, je dirais peut-être c'est d'avoir un plein contrôle sur tous les aspects du spectacle, c'est-à-dire au niveau du choix des chansons, au niveau moi de ma façon d'interpréter. J'avais pas envie que personne me dise quoi faire. Donc c'était pas absolument pour par désir de tout faire moi-même, c'était plus par désir de liberté, en fait.
Et vous vous considérez comme un performeur?
Ben oui, si on peut dire, parce que quand on est seul sur scène, il faut être capable d'envoyer la sauce, il faut être présent, d'autant plus qu'on est justement par le fait d'être seul. Si on donne pas un bon spectacle, ben les gens, c'est clair qu'ils peuvent se désintéresser rapidement. Puis, ils n'ont personne d'autre à regarder, ils n'ont personne d'autre à écouter. Donc, on n'a pas le choix d'être toujours là, très présent pour capter l'attention des gens.
Alors, comment ça se concrétise? Parce que, bon, alors, vous jouez de plein d'instruments. Comment vous faites pour occuper l'espace, quand même, à vous tout seul?
Je dirais que c'est vraiment, par le... Il faut savoir, je pense, comment doser le spectacle. Il faut savoir où est la sauce quand c'est le bon moment. Il faut savoir aussi relâcher puis faire des chansons un peu plus douces. Donc, il faut vraiment, avec le temps, on vient qu'à savoir ce qui fonctionne, comment garder l'attention et comment donner un spectacle qui est pas trop répétitif non plus puis pas trop ennuyeux.
Alors, votre musique, vous le disiez tout à l'heure, elle sonne très nord-américaine entre blues et rock. Vous parliez de roots. Oui. C'est une volonté de revenir à ce que vous considérez peut-être comme la source de la musique?
Ben, je pense que oui, en tout cas pour moi, oui, parce que ce que j'écoutais quand j'étais adolescent, c'était beaucoup la musique américaine, puis c'était beaucoup la musique soul, la musique blues, un peu de country aussi.
Vous avez des noms?
Oui, ben j'écoutais beaucoup de Howlin' Wolf, qui est du blues de Chicago aussi, Robert Johnson, les Rolling Stones, Jimi Hendrix, des trucs comme ça, qui sont quand même, qui tournent autour du blues, je dirais. Parce que ce que je fais, c'est pas non plus du blues pur. Il y a quand même une touche de folk aussi, une touche, je dirais même, de musique rock. Donc, j'avais envie de revenir à ça, en fait, dans la musique américaine. Parce que c'est vrai que si on écoute ma musique, c'est vraiment très centré sur l'Amérique.
Comment est-ce que vous avez travaillé pour ce deuxième album, qui a un son très brut, qui est considéré, qu'on peut voir comme un road movie, un peu?
Oui. En fait, je voulais pas me répéter, je voulais pas faire comme le premier album, que j'adore, soit dit en passant, mais je sentais que je voulais aller ailleurs. En fait, je voulais pas seulement me répéter puis faire un autre album un peu roots. Je voulais qu'il y ait aussi des ambiances qui permettent aux gens de rêver un peu d'aller ailleurs. Je voulais faire quelque chose de peut-être un peu moins aride que le premier. C'est quand même assez spontané, hein. On n'a pas trop travaillé. Moi, j'essaie de... C'est-à-dire que c'est assez spontané, c'est beaucoup de la prise directe, du direct. Donc, il n'y a presque pas d'overdub. On retravaille pas énormément le son. On s'arrange pour... on travaille beaucoup avant d'enregistrer pour être certain de capter ce qu'on veut. Mais un coup qu'on commence à enregistrer, on essaie de garder l'essence brute quand même. On essaie de pas trop peaufiner.
Frédéric Pellerin, vous êtes né au Québec et vous avez ensuite vécu à Lyon.
Oui, exactement. Ben, à ce moment, j'habite à Lyon. Depuis moi, là, je suis au Québec pour les vacances de Noël. Mais oui, en fait, j'habite à Lyon depuis février dernier.
Quel rapport vous avez avec la France?
Ben, moi, je dirais que c'est une très belle relation jusqu'à date. Je me suis senti toujours très bien accueilli en France, d'où une des raisons pourquoi je me suis installé là. Les choses fonctionnent très bien ici au Québec, mais j'avais aussi envie de changer d'atmosphère, de changer de lieu. Puis, je veux dire, en ce moment, les choses se passent très bien. Il y a des très belles dates en France et aussi dans d'autres pays d'Europe. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tenter l'aventure? Pourquoi pas un peu changer d'air?
Changer d'atmosphère?
Oui, de changer d'atmosphère. Parce que non, ça se passe bien. Puis, je trouve que les gens sont assez intéressés aussi à ce style de musique en Europe. Puis moi, ça me permet aussi de baigner dans un univers musical qui est différent. Parce que je trouve que ce que j'aime beaucoup de l'Europe, c'est qu'il y a beaucoup de musique du monde. Il y a beaucoup de chansons aussi, des styles qu'on a peut-être un peu moins chez nous. Donc, ça me permet aussi de découvrir des nouveaux styles, nouveaux instruments, nouvelles façons de voir la musique.
Vous êtes en tournée entre la France et le Canada?
Oui.
Quels sont vos projets là pour 2014?
J'ai beaucoup de projets, beaucoup de dates de spectacles, donc des deux côtés de l'Atlantique. Donc, c'est surtout de la tournée cette année et aussi de l'écriture parce que j'ai déjà de l'inspiration pour le prochain album. Donc, je pense que cette année, ça va être... beaucoup de dates, beaucoup de routes et du travail de composition aussi.
Est-ce que vous allez reprendre avec Madcaps?
Peut-être éventuellement, mais je dirais peut-être plus en 2015.
Plus en 2015. Et est-ce que vous passerez dans l'ouest de la France?
Oui, ben on se promène un peu partout. J'espère pouvoir passer le plus vite possible. Les gens ont qu'à aller regarder sur le calendrier, donc sur le site de thecallmerico.com. Vous allez avoir toutes les dates. Donc, j'espère passer très bientôt.
D'accord. Est-ce que, par hasard, vous auriez près de vous un instrument?
Malheureusement, non. Je ne suis pas chez moi en ce moment. C'est con parce que si j'en avais un, je le sortirais immédiatement. Mais non, j'ai décidé de voyager léger. J'ai même pas de guitare avec moi. Donc.
Par contre, ce soir, on va écouter To Call My Own après cette interview. Est-ce que vous pouvez présenter le morceau et le lancer?
Oui, donc ici De Call Mirico, vous écoutez De Call My Own.
Merci beaucoup, Frédéric Pellerin.
Merci.
Yeah.
À présent, au poste de vigie, on retrouve Aminata et son périscope. Aminata qui, chaque semaine, décortique les journaux et analyse les infos. Et cette semaine, Angela Merkel, cette héroïne aux yeux des journaux européens.
Les journaux européens saluent le triomphe de la chancelière allemande qui était réélue mardi dernier pour son troisième mandat à une écrasante majorité, comme le souligne Europe 1. Les médias de l'Hexagone admirent dans un premier temps la femme. La Voix du Nord compare Angela Merkel à la femme la plus puissante du monde. Sur RTL, Alba Ventura fait de même dans son édito. C'est la femme la plus puissante du monde. Angela Merkel reste encore insaisissable pour François Hollande. Leur relation reste à construire. Entre deux, ce n'est pas la bonne franquette de Chirac. Marcémo pour Libération y voit une femme discrète, efficace, un bourreau de travail. La Charente Libre nous dit Angela Merkel restera en apparence ce qu'elle a toujours été, un roc inébranlable face à tous ses laxismes, notamment dans la zone euro, avec la rigueur pour mettre mot dans l'Europe telle qu'elle existe. Pour Olivier Berge, Angela Merkel incarne la mère protectrice de la nation allemande. Sa réélection est triomphale. C'est pour son sens des situations politiques que les Allemands l'ont maintenue au pouvoir.
Une coalition forcée.
Les médias n'oublient pas de rappeler que la chancelière devra exercer son mandat sous une grande coalition qui réunit l'Union chrétienne démocrate de Madame Merkel et le PS allemand. Alba Ventura affirme qu'elle restera la patronne même en période de coalition. Voilà ce qui fait rêver le président français. C'est l'accord qui a été conclu entre les conservateurs et les démocrates. Un bel accord bien ficelé dans les règles, rien à voir avec l'accord entre le PS et les Verts français qui continue à empoisonner la majorité. Et hop, un petit pic pour le gouvernement français. Les Échos rappellent qu'Angela Merkel sera obligée de négocier. La chancelière devra d'abord composer avec son propre parti, dont une douzaine de députés ont voté contre les différents plans d'aide européens. Pour la Charente Libre, la chancelière doit concilier des positions qui paraissent inconciliables.
Et la France dans tout ça ?
Les journaux ne se privent pas de tacler le gouvernement français. Au passage, une coalition impossible, source même d'ironie. Pour la Charente Libre, on peut toujours rêver une telle coalition pour la France. Elle ne résisterait pas à la première lessive. Alba Ventura fait le même constat. Le Parti social-démocrate allemand n'est pas le Parti socialiste français. On n'imagine pas la droite et la gauche ensemble. Cette coalition bluffe François Hollande. Jean-Claude Souléry, dans la Dépêche du Midi, nous fait vivre 30 secondes de coalition UMP-PS. Non, ce n'est vraiment pas possible. Imaginez un gouvernement où cohabiteraient tranquillement les Fabius, les Moscovici, aux côtés des Copé. Cela relève de la plus pure fantaisie. Contrairement à la droite et la gauche allemande, ni le PS ni l'UMP sont prêts à une grande coalition. Et si c'était le cas, on peut aisément prévoir que cet attelage incongru ne tiendrait pas 24 heures. Pas même une demi-journée, pas même en rêve. Moralité, chez nous, on ne se mélange pas. Et c'est ainsi que Christiane Taubira est dispensée de siéger aux côtés de Jean-Claude Guéant.
Merci Aminata, on te retrouvera après les vacances en janvier. Et on termine le sous-marin avec l'agenda de ce soir. Ce soir, il est présenté par Julien Paul.
Ce soir à 20h, excusez-moi, Radio Campus est au bar du Quai pour la soirée Beatmakers partie 2, soirée gratuite et influence trip-hop, où vous pourrez en première partie écouter Hugo Kant suivi de Tilassine, en direct et en public sur le 103 FM. Toujours au Quai à 20h30, cette fois-ci, une pièce de théâtre Prélude à l'agonie. Mise en scène et scénographiée par Sophie Pérez et Xavier Bousséron. Une grande mise en scène sur le western qui vous transportera dans l'univers fantasque et particulier de ce duo très décomplexé. Ensuite, toujours à 20h30, les associations étudiantes de théâtre d'impro d'Angers se réunissent pour la grande nuit de l'impro à l'espace culturel de Saint-Serge. Un peu plus tard dans la soirée, à 21h29, au T-Rock Coco, vous aurez l'occasion d'écouter les rockers Van Beeples ainsi que Birdie Hunt qui vous chaufferont l'ambiance. Si vous êtes musique baroque, le musée des Beaux-Arts propose une soirée pas chère, 4-5 €, où l'ambiance Amaryllis, déjà primée internationalement, vous jouera une musique sensuelle qui vous aidera peut-être à vous relaxer.
Merci Julien Paul, on te retrouvera demain soir pour un autre agenda. Voilà, il est l'heure pour nous de lâcher l'immersion. Aux manettes ce soir, c'était Manu et derrière les micros, Simon, Rémi, Mathilde, Aminata et Julien Paul. Vous pouvez nous réécouter sur notre site internet. Tout de suite, vous retrouvez Radio Campus Angers en direct et en public au Bar du Quai pour la Beatmakers partie 2 avec l'équipe de Turbulence. Hugo Kant et Tilassine seront sur scène, le tout jusqu'à 1h du matin. Avant de remonter à la surface, on vous quitte avec la bulle sonore. Éloignez les enfants. Vous allez entendre un extrait de l'émission Micro-ondes de mardi dernier dans lequel on vous explique pourquoi le Père Noël est un imposteur. La totalité de l'émission est disponible sur le site de la radio, je vous la conseille, c'est très drôle. Merci à vous d'avoir embarqué dans le sous-marin, passez une très bonne soirée à l'écoute de Campus, on se retrouve demain à 19h. Allez, bisous.
Le mythe du Père Noël.
Oui, voilà, on va révéler des trucs sur le Père Noël qui sont... Vas-y Morgane, voilà. Dis-nous tout
le
ça.
Le Père Noël, c'est arnaqueur, escroc. Charlatan.
Bandit.
Vilain.
Enfin bref.
Donc, le Père Noël, au 24 décembre au soir, doit porter des cadeaux à environ 378 millions de petits-enfants chrétiens. Mm-hmm. Jusque-là, ça va. Oui. Si on imagine que le poids moyen d'un cadeau est d'un kilo, ça nous fait une hotte de 378 000 tonnes, c'est-à-dire de plus de deux fois le Queen Mary 2.
D'accord, c'est lourd.
C'est très lourd. Donc, si t'es le dernier de la tournée, tes cadeaux risquent d'être bien,
ouais, d'être écrasés,
d'être
quoi.
Bien aplatis,
ouais,
sous ces centaines de milliers de tonnes. Ensuite, deuxième point, les rennes volants. Bon, jusqu'à ce jour, on connaît qu'une seule espèce de renne, hein, et ils volent pas. Donc, on a dit que le traîneau doit contenir 378 000 tonnes de cadeaux.
De Queen Mary 2.
Or, un renne peut tirer en moyenne 150 kilos. Ça veut dire qu'à son traîneau, il doit accrocher 2,5 millions de rennes. Ensuite, un renne, ça fait 2 mètres de long. Si les rennes sont attachées deux par le dos, ça nous fait 2500 km d'attelage.
Ah, ça fait du gros attelage.
C'est-à-dire que le traîneau a 2500 km derrière le premier renne.
Et donc, mais comment il fait pour donner les directives au premier renne?
Sûrement avec une oreillette radio, parce que c'est-à-dire à cette distance-là, déjà il faut du coffre. Et le son met 2h20 à arriver. Troisième point. Le Père Noël, quand il descend dans la cheminée, il dépose les cadeaux, il prend le temps de manger ses petits gâteaux avec son petit verre de lait que les enfants ont laissé bien gentiment sur la table.
Ou son petit whisky que les parents ont laissé.
Mais en fait, il n'a pas le temps. Ben non. Parce que si on compte en moyenne 3,5 enfants par foyer, ça nous fait 108 millions de cheminées à visiter. Donc, s'il voyage d'est en ouest, ce qu'il a intérêt à faire, grâce au créneau, au fuseau horaire.
Oui, d'accord.
Ça lui fait 31 heures pour faire le tour. Ce qui nous fait quand même 968 maisons par seconde. On va dire que la surface de livraison, entre guillemets, se réduit à l'Europe, l'Amérique et l'Australie réunies. Mm-hmm. Donc environ 61 millions de kilomètres carrés. Donc la distance moyenne entre les cheminées, ça nous fait 850 mètres.
D'accord.
Pour un parcours total de 91 millions de kilomètres, si on met toutes les cheminées sur une ligne.
D'accord. Oui, ça fait
encore
beaucoup.
Si le Père Noël avait juste à faire ses kilomètres sans distribuer ses cadeaux, c'est-à-dire sans s'arrêter, il devrait quand même aller à 815 km par seconde, soit 1000 fois la vitesse du Concorde. C'est infaisable.
D'accord, c'est infaisable. D'accord.
Déjà, à cette vitesse-là, il serait désintégré depuis un moment.
Ah oui, en plus. Donc oui, donc c'est clairement infaisable. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine, we all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine.